décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 10, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, qu'a-t-on au sommaire ?
Revue de presse avec des articles un peu originaux.
C'est pas le nombre qui compte. On va commencer par Crypto News. C'est quoi un fork ? Par Boris Nedelchev.
Alors, Crypto News, c'est un site orienté crypto, mais c'est les monnaies crypto essentiellement. Et il parle du fork dans le sens général, en expliquant que voilà, la fourchette, c'est le fait de reprendre un logiciel et de partir sur une autre branche. C'est plutôt intéressant, mais eux, ils l'appliquent aussi dans le cadre du Bitcoin, où il y a plusieurs types de forks, c'est-à-dire que cette monnaie sur Internet, elle peut diverger, en quelque sorte. Donc c'est intéressant de connaître, notamment si vous avez du Bitcoin, vous devez de le savoir.
Numérama, comment DuckDuckGo va contrer plus efficacement les trackers pour protéger votre navigation, par Julien Lausson.
Alors c'est un projet qui est proposé par l'entreprise DuckDuckGo. Donc DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche qui se veut aider à garder votre vie privée, votre anonymat. Et donc, ils font un outil qui s'appelle Tracker Radar. Alors, on a déjà parlé d'outils un peu semblables, comme Exodus, qui vont vérifier un petit peu ce que vous avez sur votre ordinateur et sur votre navigateur.
Le Mag IT, l'avenir incertain des licences open source, par Cliff Saran et Adrian Bridgewater.
C'est un sujet à troll, parce que cet avenir incertain, en gros, ce qui est indiqué dans l'article, c'est que les licences libres, mais très relaxes, qui n'ont pas de contraintes associées, marche très très bien, et que les licences libres avec un peu plus de contraintes, comme la GPL, c'est la licence la plus connue dans le monde du logiciel libre, eh bien, on n'a pas tout à fait le vent en poupe en ce moment. En quelque sorte, on n'a plus tout à fait besoin de défendre le modèle du logiciel libre, c'est une des explications.
Moi, j'aime bien la licence What the Fuck, qui donne tous les droits à tous ceux qui veulent réutiliser.
C'est compliqué quand même, hein, de tout connaître, c'est compliqué.
ZDNet France, l'open source devient de plus en plus riche, selon Suze, par Daphné Le Prince Ringuet.
Donc Suze, c'est une entreprise et une distribution qui fait une distribution de logiciels libres au-dessus de Linux. Donc c'est intéressant parce que ça parle économie, modèle, un petit peu comme Red Hat a très bien marché parce qu'ils sont vendus des dizaines de milliards de dollars à IBM. Donc Suze, ils n'ont pas un marché phénoménal, mais ils ont quand même de la valeur et ils développent cette valeur tout en faisant attention à garder leur valeur, notamment s'ils gardent bien leur valeur, c'est-à-dire l'éthique du logiciel libre, eh bien ils espèrent garder ce qui est pour eux le plus important, c'est-à-dire leurs développeurs.
Et leur communauté aussi. Ville intelligente, planter, arroser, partager, les mots d'ordre du collectif Incroyable Comestible, par Yannick Sourisseau.
Alors oui, la revue de presse inclut parfois des sujets qui ne parlent pas d'informatique. Là, c'est intéressant parce qu'ils se revendiquent de l'open source, du logiciel libre donc. Et ils indiquent qu'ils veulent pouvoir planter et que ceux qui plantent ne vont pas forcément être ceux qui récoltent. C'est un partage et c'est des contributions qui sont mises en commun. Donc c'est plutôt sympathique.
C'est toujours intéressant de voir que l'esprit du libre est repris dans autre chose que de l'informatique.
Exactement.
Avec cette différence majeure que la plante ne pousse qu'une fois, alors que le code, on peut le reproduire sans que ça coûte.
Alors effectivement, mais y a l'intermédiaire qui s'appelle les graines et qui peuvent te donner une forme de reproduction qui ressemble plus ou moins à ce qu'on fait avec du logiciel.
Voilà, mais on reste quand même sur un produit fini, mais c'est bon, ça. Voilà,
c'est intéressant. Ça.
C'est d'autant plus intéressant de voir l'éthique du libre mise sur un produit fini, comme quoi c'est possible. FFH Journal, un mouvement en open source pour redynamiser l'horlogerie, par Fabrice Eschmann.
Encore ?
Oui, il y a encore un sujet sur ce mouvement d'horlogerie libre.
C'est la quatrième fois qu'on en parle.
Oui, ça doit être dans ce genre-là. Donc c'est les Suisses, ils arrivent à faire une campagne de communication digne de ce nom et ils font sortir des articles sur le sujet. Oui, c'est pas mal parce que ça reste de l'innovation libre, c'est-à-dire qu'ils vont partager les plans de ce système d'horlogerie. Et il semblerait que ce soit très compliqué, ça coûte des millions de développer ce genre de choses, c'est-à-dire le petit moteur qu'on met dans une montre.
En tout cas, ils ont une horloge qui fonctionne bien, hein. Il y a un article sur le sujet toute la semaine.
Non, n'en est pas là, parce que ça fait bien un an qu'ils ont sorti ce mouvement d'horlogerie officiellement. Mais ils font régulièrement des communications, ils ont raison.
Alors le sujet de la semaine du coup, c'est quoi ?
En fait, c'est encore moi. Après les mots de passe, là j'ai un problème, c'est mon téléphone et mon ordinateur, ça va pas du tout.
Qu'est-ce qui leur arrive, hein ?
Déjà, ils chauffent. Ils sont super chauds, quoi. Je mets la main dessus et c'est limite si je me brûle pas.
Tu veux dire qu'ils ont de la fièvre ?
Ouais, tu crois que c'est ça ?
Ça y ressemble.
Ça y ressemble, bon.
Essayer de leur mettre un thermomètre, non ?
Non. Non, mais je les ai débranchés pour qu'ils diminuent leur température.
Il faut savoir qu'il y a des thermomètres intégrés dans les processeurs et qu'avec les outils adaptés, on peut savoir quelle est la température des composants, des organes de ces équipements et savoir si effectivement ils ont trop chaud ou pas.
Bon, apparemment, ils ont trop chaud. Mais ça, à la rigueur, en éteignant ça se refroidit, quoi. Mais le souci, c'est que quand je les rallume, ben, ils ronflent, ils respirent fort, ils toussent. Enfin bref, ils font un bruit assez démentiel, quoi.
C'est le ventilateur ?
C'est le ventilateur qui compense, effectivement. D'autres symptômes ?
Ben, ils sont très lents, quoi. Genre, baisse d'énergie, ils fonctionnent mal, ils répondent pas tout de suite, ou alors ils répondent plein d'actions d'un coup, genre, waouh, ils s'éclatent, quoi.
Ils sont occupés à faire autre chose, hein.
Ouais, ouais.
Et puis, ben, la batterie, elle se vide, mais hyper rapidement, quoi. D'habitude, je la charge.
Quoi.
Non, totalement, quoi. Totalement. Et puis, en plus, maintenant, ils commencent à perdre la mémoire, quoi. Il y a des données qui n'apparaissent plus, et j'y accède plus, quoi. Genre, elles sont plus là.
Donc, soit elles ont été déplacées, soit peut-être même chiffrées, soit effacées tout court. Mmh.
Et puis, le pire, c'est qu'il me tient des propos incohérents, quoi. Il veut me vendre du Viagra, il veut me rançonner, se rallume pas. J'ai même une demande en mariage, je sais plus quoi faire, moi.
Eh bien, écoute, tout ce que tu nous dis là nous laisse à penser que tu as un virus.
Un quoi ?
Un virus informatique.
Mon ordinateur a chopé un virus ?
Eh bien, ça peut arriver. Tu as voyagé quelque part il y a peu de temps ?
Ben non.
Tu as été en Chine ou en Italie ?
Ben non.
Tu as du matériel qui viendrait d'autres pays ?
Mon téléphone est chinois ?
Alors, certains téléphones chinois viennent avec des backdoors, voilà, qui ont été installés avec le système d'exploitation. Mais après, il est possible que tu attrapes des virus autrement.
Oui, mais j'ai un antivirus.
Bah, les antivirus, ça saurait si ça fonctionnait dans tous les cas.
C'est une mauvaise protection. Alors, il y a des études un petit peu lointaines maintenant, mais qui avaient démontré que ça marche extrêmement mal. Et le problème, c'est que rien ne remplace une bonne hygiène informatique.
Une bonne hygiène informatique ?
Bah, en gros, le mieux, c'est d'avoir un bon système d'exploitation sur son ordinateur ou sur son téléphone.
Oui, c'est la base, c'est un OS sain dans un ordinateur sain. Déjà, s'il est bien conçu et pas plein de trous, déjà, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'attraper des virus. En revanche, si on a un truc voilà, qui est mal foutu ou n'importe qui peut mettre n'importe quel logiciel, c'est plus compliqué.
Oui, on sait qu'avec une bonne distribution Linux, hein, par exemple une Debian, une Ubuntu, une Mint, bah on a quelque chose d'assez solide. Ceci dit, même un Mac pourrait faire à peu près l'affaire. C'est basé sur du logiciel libre largement.
Voilà, alors le Mac a plein de défauts au niveau des libertés, mais il est effectivement relativement solide. Mais même dans les téléphones portables et même avec du logiciel libre, les téléphones Android ont de nombreux problèmes de sécurité parce que n'importe qui, et notamment les fournisseurs, peuvent intégrer des éléments voilà, tout à fait néfastes.
On pourrait rajouter, pour avoir une bonne hygiène, il faut faire des mises à jour. Il faut bien avoir installé les derniers correctifs de sécurité. C'est indispensable parce que bien, il y a des virus qui sortent tous les jours. Et donc, on peut se faire choper par ce qui s'appelle un zero day, un jour zéro. Donc, une faille qui vient d'être découverte et qui n'a pas encore eu de correctif. Ça peut être compliqué, donc il faut mettre les correctifs dès qu'on les reçoit.
Et si je fais ma mise à jour, du coup, je peux avoir un correctif qui va enlever mon virus ?
Potentiellement, mais ça reste compliqué. Hein. Une fois qu'on l'a chopé...
Tout à fait, tiens, oui. Donc, c'est l'hygiène avant d'avoir des problèmes. C'est effectivement de faire ces mises à jour toujours, tout le temps, le plus tôt possible. Mais également de faire des backups, des sauvegardes, c'est-à-dire d'enregistrer ces données à l'extérieur de son ordinateur au cas où on ait un problème.
À l'extérieur de son ordinateur.
Sur un disque dur externe, par exemple.
Une clé USB.
Ou un service hébergé sur Internet dans lequel on ait confiance.
Donc, ces backups, c'est l'indispensable, parce qu'en cas de panique générale, quand tout est fichu, eh bien, au moins, on peut garder les données indispensables. Donc, il faut bien y réfléchir, les vérifier de temps en temps, et s'assurer d'en avoir plusieurs. Parce que même un backup, ça peut ne pas suffire.
Alors, la bonne hygiène informatique, c'est aussi de ne pas télécharger n'importe quoi, notamment des logiciels piratés, puisque les pirates qui fournissent gracieusement ces logiciels sont souvent intéressés et ajoutent un petit virus au même temps, et du coup, notre ordinateur tombe malade.
Alors, ça peut s'appeler un troyen, notamment.
Mais après, il y a aussi les mails. Il y a des mails louches avec des exécutables qui sont dedans, donc tous les .exe ou d'autres. Dès qu'il y a quelque chose qui demande à être lancé, il ne faut surtout pas le faire. Parfois, ça peut même passer dans des fichiers de bureautique, par exemple.
Oui, mais j'ouvre que les mails de mes amis. Moi, j'ouvre pas n'importe quoi.
Alors, c'est une bonne habitude, mais parfois, si l'ami lui-même a été piraté, il y a des mails qui peuvent partir ou que son adresse est connue. Il y a des mails qui peuvent partir et qui font que ça ressemble à son adresse ou que même c'est son adresse. Donc, du coup, c'est bien aussi d'avoir les oreilles ouvertes pour savoir où en sont ses amis.
Ça reste compliqué. On sait que les gens vont devoir, à un moment donné, ouvrir des documents qu'ils reçoivent de l'extérieur. Et oui, dans certains cas, ça peut dégénérer parce qu'on peut ouvrir une saloperie.
Et un autre truc très important, c'est les clés USB. Et c'est une des sources très fréquentes d'infection. Qu'une clé USB qui passe d'ordinateur en ordinateur récupère un virus sur l'un d'entre eux. Donc on évite de mettre sa clé USB n'importe où sur des ordinateurs mal gérés ou des gens qu'on ne connaît pas ou en qui on n'a pas confiance.
Mais alors du coup, maintenant, je fais quoi avec mes ordinateurs virusés ?
Ah bah la quarantaine.
Oui, tu débranches tout, tu déconnectes, tu n'amènes pas ton matériel dans un réseau que tu ne voudrais pas contaminer, donc tu l'éloignes de ton réseau d'entreprise, de l'école, de l'université ou de ton institution, parce que tu ne veux pas transmettre à autrui ce que tu as déjà récupéré toi-même.
Pareil avec la clé USB, c'est un peu tard pour faire tes sauvegardes, parce qu'il est possible que ton virus passe sur la clé ou le disque dur que tu vas utiliser pour faire une sauvegarde. Donc malheureusement, c'est pour ça qu'il faut les faire en amont. Ça risque d'être trop tard, donc mieux vaut ne pas le faire.
Alors, ça peut arriver qu'on essaye de récupérer, mais c'est vraiment un palliatif de dernière minute.
Voilà, on évite aussi d'envoyer des mails depuis l'ordinateur ou le téléphone infecté pour prévenir les gens, parce qu'on peut vouloir les prévenir, mais on essaie de le faire d'ailleurs, d'un truc qui n'est pas infecté. Et dernier point également, c'est qu'on ne va pas évidemment visiter des sites importants comme son site bancaire alors qu'on se sait infecté.
Oui, là ce serait le pire des pires, c'est-à-dire que non seulement le matériel qu'on utilise se ferait contrôler peut-être à distance, mais en plus les accès sur des sites un peu importants, donc ça peut être des données de santé, ça peut être des données personnelles qu'on ne voudrait pas voir partir dans la nature, et bien si on utilise son matériel et qu'on accède à ces données, il y a un risque qu'elles soient transmises ailleurs.
Voilà, et pour résoudre le problème, des fois c'est pas possible, dans ce cas-là, dommage, et dans ce cas-là, il faut faire une réinstallation à partir de zéro, retour formaté, on peut perdre ses données. Et sinon, souvent, par rapport à un virus particulier, il y a des petits logiciels qui vont être fournis par les éditeurs, qui vont permettre de nettoyer l'ordinateur et d'enlever ce virus spécifiquement.
Appliquer les patchs de sécurité, parfois, ça peut au moins corriger partiellement. Et puis, il y a des nettoyeurs qui ne sont vraiment aucune garantie d'efficacité, mais qui peuvent essayer de récupérer un peu le système. C'est au cas par cas. On a vu des rançongiciels, par exemple, c'est-à-dire ces petites saloperies qui s'installent sur un ordinateur et qui bloque l'accès à des fichiers, notamment en les chiffrant. Eh bien, il est apparu parfois des correctifs au bout d'un certain temps qu'on installe sur l'ordinateur et qui vont débloquer à loisir les fichiers pour qu'on puisse enfin les récupérer, les backuper un petit peu vite fait, mal fait, mais... au moins, on les récupère. Ça a été indispensable. Il y a des villes entières, aux États-Unis notamment, où ils étaient attaqués par des rançongiciels. Ils n'avaient plus accès à leur ordinateur, à leur compta. Ils étaient bien embêtés et ils avaient eu utilité de ces débloqueurs-là.
Et dans ces cas-là, il faut payer les rançongiciels ?
Bizarrement, il y en a plein qui le font, des entreprises, parce qu'il y en a qui sont coincés. Mais non, clairement, il faudrait complètement éviter de faire ce genre de choses-là. Ça les encourage. Hein. Dans tous les cas, personne ne peut être à l'abri complètement. Même en utilisant les bonnes pratiques, même en faisant attention à être en bonne santé, c'est-à-dire à utiliser du bon logiciel au départ, du logiciel libre notamment, il n'y a aucune garantie à long terme d'être à l'abri de tout.
Non, mais par contre, les probabilités d'être infecté sont très très différentes si on a un Windows pas tenu à jour avec des logiciels piratés dessus. La probabilité de se faire infecter est extrêmement forte par rapport à un GNU Linux bien à jour.
Tu veux dire que les vieux sont encore plus en risque ? Les vieux systèmes d'exploitation, c'est ça ?
Alors, pas nécessairement, parce que du coup, les pirates ne s'attaquent plus trop à ces machines-là, puisqu'elles ne sont pas très répandues, donc ils ont tendance à s'attaquer aux systèmes d'exploitation les plus fréquents et d'essayer de trouver les failles de ces systèmes-là. Mais bon, si on est sur un très très vieux système, ça commence à devenir compliqué d'utiliser les pleines capacités de son ordinateur ou de son téléphone.
Tu n'avais pas une anecdote là-dessus ?
Et non, alors cette anecdote, elle est un petit peu différente. C'est qu'il y a fort longtemps, quand j'utilisais encore un Windows 2000, j'avais des problèmes de virus constants. En fait, donc, je réinstallais et ça revenait aussi sec. Et j'ai fini par m'apercevoir que le simple temps de faire la mise à jour, l'ordinateur se faisait de nouveau trouer parce qu'il y avait des failles. J'étais sur la version de base était assez ancienne. Et le temps de faire la mise à jour, le système d'exploitation était de nouveau percé par les attaques. Il faut savoir que par Internet, des attaques sur les systèmes d'exploitation, c'est tout le temps, c'est toutes les 5 minutes.
Sur les ordinateurs de Mag à sa librairie, que je maintiens, je vois en permanence, toutes les heures, des attaques multiples. Il y en a bien des dizaines et qui ne passent pas parce que c'est une Debian, c'est assez solide. Mais quand même, il y a des gars avec leur ordinateur qui essayent toutes les combinaisons de identifier en mot de passe. Toutes. Voilà.
De l'intérêt de ne pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mot de passe.
Ah non, bah clairement, celui-là, il va être utilisé en premier. Hein. Il y a des attaques par dictionnaire et elles vont être testées, hein. Clairement.
Magali, voilà, j'espère que tu arriveras à soigner ton équipement.
Bah, j'espère aussi. Hein. À la semaine prochaine.
C'est ça.
À la semaine prochaine.
Salut.